DW. Pulsation.
Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Pulsation. Cette semaine, on part à la rencontre de Max Lobé, écrivain camerounais installé en Suisse. Il nous parle dans un instant de son livre « Confidences, les siennes », celle d'un homme qui retourne au pays rencontrer la vieille Ma Maliga. Au fil des pages, celle-ci lui raconte sa version de la guerre d'indépendance au Cameroun et ce qu'elle sait du militant indépendantiste et anticolonialiste Ruben Omniobe, surnommé Podol ou celui qui porte la parole des siens en langue bassa. Au micro, c'est Constance Fischer et c'est parti.
Le saviez-vous ?
Mais pour commencer, on s'arrête un instant sur une personnalité de la vie politique tchadienne. Connaissez-vous Fatimé Kimto ? Elle a été la toute première femme à occuper un poste ministériel dans l'histoire de son pays, en tant que ministre des Affaires sociales et de la femme, poste qu'elle occupe sous différents noms dans les années 80 sous Hissène Habré, puis plus tard dans les années 2000 sous Idriss Déby Itno. Plus tard, elle passe aussi par le ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi. Le 21 mai 2015, Fatimé Kimto mourait à N'Djamena des suites d'une longue maladie. A noter que lors du scrutin présidentiel qui s'est tenu début mai 2024 au Tchad, une seule femme s'est portée candidate contre 9 hommes. Lydie Béassemda, ancienne ministre, avait déjà tenté sa chance en 2021. Elle avait alors recueilli un peu plus de 3% des suffrages.
Messieurs, dames, bonsoir. Bonsoir, Max Lobé.
Bonsoir.
Un soir de fin mars à Cologne, en Allemagne. Max Lobé est l'invité de l'Institut français pour présenter son livre « Confidences », sorti en 2016 aux éditions Zoé, en français, puis en 2022 en allemand sous le titre « Vertraulichkeiten ». Né à Douala, au Cameroun, en 1986, Max Lobé vit aujourd'hui à Genève, en Suisse. Il est notamment l'auteur de 39 rues de Berne et loin de Douala. Juste avant que la partie officielle de la soirée ne commence, nous avons pu lui poser quelques questions. Mais commençons par le commencement, un extrait du premier chapitre de Confidence qui explique justement le pourquoi de ce livre.
Voilà, ça y est, je suis dans l'avion qui m'amène à Douala. Pourquoi se décider seulement maintenant à retourner au pays ? Cameroun, une guerre cachée aux origines de la France-Afrique, 1948-1971. J'ai assisté à une présentation de ce livre à Genève. La découverte de mon ignorance m'exaspère. Il était temps de retourner vers cette terre mal connue, surtout vers cette histoire récente, si peu abordée, voire gommée, sciemment.
En général, quand j'écris, je parle des autres en parlant de moi. Et là, je retourne au Cameroun, après un long moment, une dizaine d'années, loin du Cameroun, notamment en Suisse. Et je retourne sur les traces de Ruben Omniobe, le leader de la guerre d'indépendance du Cameroun dans les années 50 du siècle dernier. C'est non seulement l'histoire d'une libération difficile, très difficile, meurtrière, criminelle même, mais aussi l'histoire d'un Camerounais qui va à la recherche justement de ce passé-là, qui essaye de se mettre en perspective, lui, qu'est-ce que cette histoire a fabriqué en lui.
Il y a une alternance entre des passages à la première personne et puis une rencontre très importante qui est en fait, on peut dire, l'héroïne du livre, si vous, vous êtes le héros. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, cette héroïne ?
C'est une vieille dame, elle s'appelle Maliga, en bassa, Maliga veut dire la vérité. Et cette dame que j'ai rencontrée justement dans la forêt camerounaise, la forêt bassa, elle me raconte son histoire à elle d'abord. Et son histoire, en fait, se passe pendant la guerre d'indépendance du Cameroun, et donc c'est la petite dans la grande.
Moi, je ne comprenais pas toujours tout le gros français compliqué comme Podol parlait souvent. Même les traductions en bassa n'étaient pas si simples à comprendre. Pour certains mots du gros français compliqué des Blancs-là, il n'y a pas de traduction en bassa. Mais avec ou sans explication, là n'était pas le problème. Nous étions très nombreux à vouloir que les Poulassis nous donnent notre part de liberté. Est-ce qu'on doit être intellectuel long crayon pour demander ça?
L'histoire cite toujours les hommes. Et on oublie les voix féminines qui sont là. En l'occurrence, Mamalia, elle n'a pas fait partie de la bataille, mais c'est une voix, un témoin oculaire. C'est un œil qui a vu et qui transmet.
Alors, c'est une question, moi, j'ai trouvé centrale aussi dans votre livre. C'est la question de la transmission du passé. Au début, il y a deux questions, j'ai l'impression, qui s'affrontent. Il y a peut-être une voix qui dit « oublier le passé pour pouvoir avancer dans le présent ». Et il y a l'autre voix qui dit « si on oublie le passé, si on ne l'apprend pas dans les écoles, dans les livres d'histoire, c'est un énorme risque que les atrocités du passé se répètent ».
Moi, je pense que c'est que la deuxième option. L'oubli, c'est une arme non conventionnelle très dangereuse. Regardez n'importe quel peuple du monde, hein, personne n'oublie jamais rien. Et même si deux, trois, une dizaine de générations oubliaient, il y a quelqu'un qui va sortir un jour et dire non, l'histoire là n'est pas finie. En l'occurrence, c'est pas fini. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Afrique avec la France, c'est pas fini. Je suis profondément anticolonialiste. Qui est dépendant, qui est indépendant? Je pense que la France doit beaucoup travailler à son indépendance à elle. Il est grand temps que cela se passe.
Max Lobé, invité de l'Institut français à Cologne et invité dans Pulsation cette semaine. En ouverture de son livre « Confidence », on trouve une lettre à l'auteur signée Alain Mabankou, grand nom de la littérature congolaise, auteur notamment de « Mémoires de Porc-Épic » et « Demain, j'aurai 20 ans », une préface dans laquelle il écrit notamment ceci. Cher Max, je suis convaincue que chaque fois qu'un écrivain entreprend un retour au pays natal, comme tu viens de le faire, il n'en sort jamais indemne et devra affronter une multitude d'interrogations. Comment se définit-il? Quel rapport a-t-il gardé avec sa terre d'origine? En s'éloignant du continent africain, en vivant désormais en Suisse, est-il encore un Camerounais? Est-il au fond devenu un Suisse? En somme, quelle part de son histoire garde-t-il encore avec la migration? Ça fait 8 ans que vous avez sorti votre livre. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles maintenant vous avez pu répondre? Par exemple, comment vous définissez-vous? Est-ce que vous êtes Camerounais? Est-ce que vous êtes Suisse? Est-ce que vous êtes Africain?
Ben, c'est vrai, cet exemple de question, comment je me définis, mon identité, je ne sais pas. Je sais que j'ai vieilli. Je sais aussi que j'apprends beaucoup plus tous les jours. Je sais que j'arrive prochainement, cette année, avec un nouveau roman. Étrange fruit, c'est vraiment... Je me sens étrange. Je cherche toujours des réponses à ces questions. Je ne les ai pas. La seule réponse que j'ai, c'est qu'il faut revoir la relation avec la France.
Comment a été reçu votre livre? Ça fait déjà quelques années, du coup. Est-ce que vous l'avez fait lire, par exemple, à votre famille? Est-ce qu'il a été traduit aussi en langue locale?
Traduit en langue locale, non, c'est tout un combat. Le livre est disponible au Cameroun. J'avais vraiment envie que les jeunes Camerounais lisent ce texte, leur histoire. Le problème, ce n'est pas tant mon livre à moi, c'est toute la chaîne du livre au Cameroun, en Afrique. Et là encore, il y a la France. Il y a des grands groupes éditoriaux. Moi, je vis en Suisse, à Genève, je suis publié à Genève. Mais j'ai envie de dire que jusque dans ce que les jeunes Camerounais, les jeunes Africains peuvent lire, ce qui va tomber entre leurs mains, ce qu'on va leur dire, c'est important de lire ça, c'est la France qui décide encore. Je pense qu'il faut tout reprendre. Il faut avoir des journaux qui tiennent, former les gens au journalisme, parce qu'on ne va pas se mettre à lire. Qu'est-ce que ça veut dire lire ? Lire, c'est pas simplement A, B, A, bar. Lire, c'est décrypter, c'est déchiffrer, c'est comprendre ce qui pourrait se cacher derrière les mots. Or, ils n'ont pas de formation à ça. Comment est-ce qu'ils vont comprendre vraiment ce que je veux dire? Donc, pour ça, on peut leur donner mon livre, on peut leur donner les livres. Il y en a qui comprennent, seulement la diaspora. Beaucoup comprennent, beaucoup font semblant de ne pas comprendre. Et puis moi, je continue mon petit bout de chemin. Ce serait juste de rappeler certaines choses. Voilà.
Max Lobé sur les ondes de la Deutsche Welle. Max Lobé qui nous a dévoilé le titre de son prochain roman qui doit sortir cette année, Étrange Fruit. C'est un titre inspiré de Strange Fruit, une chanson interprétée pour la première fois en 1939 par l'une des plus grandes chanteuses américaines de blues et de jazz, Billie Holiday. Et c'est notre coup de projecteur cette semaine.
Coup de projecteur.
La chanson Strange Fruit est tirée d'un poème écrit et publié en 1937 par un jeune professeur de lycée, Abel Miwopol, sous le pseudonyme de Lewis Allan. Réquisitoire contre le racisme aux États-Unis et contre les lynchages que subissaient les Afro-Américains à l'époque de la ségrégation, en particulier dans les États du Sud, le fruit étrange évoqué dans le morceau est en fait le corps d'un noir pendu à un arbre. Strange Fruit devient rapidement l'une des chansons phares de Billie Holiday et du club de jazz new-yorkais dans lequel elle se produit, le Café Society. La chanson connaît aussi un succès commercial, mais elle passera en revanche très peu sur les ondes américaines, son texte étant jugé trop dérangeant, trop lourd. À Londres, la BBC a tout d'abord refusé de diffuser la chanson et elle était même officiellement interdite sur les ondes sud-africaines du temps de l'apartheid. Il n'en reste pas moins qu'elle aura une influence énorme sur le mouvement des droits civiques aux États-Unis et qu'elle est étroitement associée au combat politique des Noirs pour l'égalité. Aujourd'hui, Strange Fruit a perdu de sa dimension politique, mais elle garde en revanche toute sa force quand il s'agit d'évoquer la dignité et la justice. En 2021, le magazine américain Rolling Stones classait d'ailleurs Strange Fruit en 21e position dans sa liste des 500 plus grandes chansons de tous les temps. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à Max Lobé et à l'Institut français. À très bientôt. Southern trees bear a strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar tree.